Monsieur le représentant de Madame la Présidente du Conseil départemental, Madame la Sénatrice, même si elle m'a dit qu'elle était là uniquement avec sa casquette de présidente, mais je souhaitais la saluer. Madame la représentante du maire de Saint-Denis, Monsieur le Président de la FHF Océan Indien, Monsieur le délégué régional FEAP, bonjour, mais aussi en insistant beaucoup, bonjour mesdames et messieurs. Pourquoi j'insiste? C'est parce que nous sommes environ 300, d'après ce qu'on a dit, et que les 300 que nous sommes, notre responsabilité à la fin de cette journée, et c'est pour ça que l'ARS l'a voulu aussi, hein, c'est que en co-construction, à travers les ateliers, nous arrivions à réaliser et construire un plan d'action sur lequel je reviendrai. Alors permettez-moi, avant d'entrer dans le fond du sujet, d'une part de saluer le comité de la charte, parce que ce comité était là au début, et ce qui est encore plus difficile, il est là maintenant. Et ce comité poursuit l'action qu'il a lancée, et c'est à souligner, et je voudrais dans ce cadre notamment saluer l'action de Christian Bonneau. Bon, je sais qu'il va enfin commencer à travailler en cessant d'avoir des activités à Père Favron pour s'occuper de choses importantes. Je pense, mais avec d'autres, hein, comme le docteur Amani, hein, on vous doit beaucoup, et je voulais le signaler. Bien sûr, pour nous accompagner, nous avons, on a parlé de témoins tout à l'heure, ben de grands témoins, c'est plus que ça. D'abord, permettez-moi de saluer Pascal Jacob. On a l'habitude de dire qu'il a changé notre regard. Moi, je dirais plutôt qu'il nous a ouvert les yeux. Hein. Et je voudrais saluer ce qu'il a réalisé. Pas la peine de le dire, on le sait ici. Je qualifierais ça d'une originalité efficace. Cette originalité efficace, peut-être parce qu'il nous a ouvert les yeux, donne envie de le suivre. C'est un leader né de ce point de vue-là, et c'est un leader efficace. On va être très attentif à ce qu'il va nous dire tout au long de cette journée. Deuxième guide, plus que grand témoin seulement, le professeur Axel Kahn. Vous avez mis votre renommée de scientifique et de chercheur à la disposition de vos engagements éthiques, humanistes. Et c'est un élément extrêmement important pour nous, je crois, c'est que nous qui sommes des gens de terrain, on est dans le cadre d'action, de technique, il est très important qu'on puisse adosser notre action à des valeurs. Aidez-nous, merci encore à rappeler ces valeurs pour nous faire avancer. Premier élément que je voudrais souligner, c'est un axiome, un principe, quand on veut être pédant, on dit un prolégomène, peu importe. Petite affirmation qui vous paraîtra évidente, mais qui me semble importante justement pour commencer à parler de valeurs, c'est que la personne handicapée a une autonomie de vie comme toute personne. Alors, vous allez me dire, oulala, ça on a déjà entendu. Je reprends. La personne handicapée a une autonomie de vie. Je ne vous dis pas la personne handicapée a droit à une autonomie de vie. Hein ? Ce principe-là, il est quasi constitutionnel. Hein ? Ce qui veut dire que, comme nous tous, la personne handicapée a droit à un soutien, elle a droit à un accompagnement, elle a droit notamment à l'accès à la santé. Hein ? Bien sûr, autant que possible, dans le respect de son autonomie, mais nous avons tous, soi-disant valides ou handicapés, nos limites, et on a tous besoin d'accompagnement. En 2013, l'ARS avait commencé à réfléchir sur une impulsion nationale, mais aussi parce qu'il y avait à l'ARS, et notamment sa directrice générale, des professionnels qui s'interrogeaient sur l'accès aux soins des personnes handicapées. Et on avait commencé à lancer des actions, des réflexions. Est arrivé alors, un peu impromptu, Pascal Jacob à la Réunion, d'après ce qu'il m'a expliqué, et ça a été le déclic. Une nouvelle fois, il a été l'étincelle. Hein ? lors d'une réunion où 150 personnes avaient été réunies par l'agence, mais aussi autour de Pascal Jacob, aîné, et moi je n'étais pas là, donc je ne peux être qu'admirateur, et c'est tout, est née l'idée de cette charte, est née l'idée de cette action et de ce travail. Il est bon de rappeler, même si ça a été dit, que c'est ici qui est né et a été rédigé, peut-être de plusieurs, dont certains de l'agence, cette charte qui a pris la dimension que vous connaissez maintenant. Sur quoi travaillons-nous à l'époque ? Sur trois domaines pour l'accès à la santé qui restent absolument, pour moi en tout cas, des domaines guides. La prévention, qu'on oublie trop souvent, hein, je pourrais y revenir un instant, les soins de proximité et les soins spécialisés. Sur ce qui est de la notion de la prévention et du suivi, comme beaucoup de professionnels de santé, et ils sont de plus en plus nombreux, il y en a à peu près 80 aujourd'hui. Je ne suis pas certain, il y a 5 ou 7 ans, qu'il y ait eu autant de professionnels de santé présents dans ce type de réunion. Il y a, me dit-on, par exemple, plus d'une vingtaine de médecins. Voilà, cela fait chemin. Lorsque, comme hospitalier, directeur d'hôpital, j'ai commencé ma mission, je me suis trouvé à la tête, par exemple, de structures psychiatriques. Et j'ai regardé les décès dans l'année et je me suis rendu compte, après étude et échange avec les médecins, que la moitié des décès n'étaient pas liés à une évolution normale d'une maladie identifiée, mais parce qu'on n'avait pas entendu les signes d'une pathologie purement somatique dans un milieu psychiatrique, évidemment avec toute la difficulté du discours du malade sur sa personne, sur son ressenti, qui n'avait pas été entendu, et on a perdu, c'était il y a 30 ans, il y a prescription, je suis sûr que ça ne se fait plus maintenant, bien entendu, on a perdu des patients qui auraient pu être sauvés. Et pour moi, c'est un point de départ personnel dans mon attachement à la mission que nous partageons aujourd'hui. Alors, depuis la charte, sa signature ici, du travail a été fait. Hein. On a lancé, mais Madame Dougin nous en parlera tout à l'heure, un travail de diagnostic intéressant, hein, sous l'égide de l'ORS. Quelles sont les attentes, les ressentis, les difficultés des personnes handicapées face à l'accès à la santé ? D'un côté, et d'autre côté, quelle est la situation de la réponse des établissements de santé, médico-sociaux, etc., aux besoins d'accès à la santé des handicapés ? Vous nous en parlerez tout à l'heure, madame. On n'a pas perdu notre temps, même si on est très loin d'avoir tout fait. Je vais essayer d'être exhaustif, donc je vais un peu vous indiquer les choses qui sont engagées depuis ces 3 ans pour vous montrer certes ce qui a été fait, mais aussi les écarts avec ce que nous devons faire, et peut-être en changeant une nouvelle fois notre approche si nécessaire. Dans les contrats pluriannuels d'objectifs et moyens, nous avons inscrit et donc demandé aux établissements de santé de prévoir l'organisation de l'accueil des personnes handicapées et le nécessaire accompagnement de ces personnes autant que possible dans le régime commun. Nous l'avons demandé à l'inverse dans les établissements médico-sociaux pour qu'ils pensent. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire sur mon expérience de début de carrière, sur les décès évitables qu'on pouvait avoir dans certains établissements, pour que ces établissements médico-sociaux pensent au problème de l'accès à la santé, parce qu'on pense à beaucoup de choses, hein, problèmes sociaux, transport, voilà, mais on oublie souvent la santé. Dans ce contexte, je dois souligner que les établissements médico-sociaux ont été très réactifs et sont particulièrement présents sur ce qu'on leur demande. Les services d'accompagnement et de soins pour les adultes et enfants ont été fortement développés ces dernières années, on pourra y revenir dans l'après-midi. On a soutenu des plateaux d'odontologie du CHU qui ont bénéficié de fonds spécifiques pour adapter leurs réponses à certaines situations de handicap dans l'accueil et dans le soin. On a travaillé avec des services d'urgence pour qu'ils sachent, par la formation de leurs professionnels, s'adapter à une situation, à une personne handicapée, quel que soit son handicap, se présente avec un besoin de soins immédiat ou ressenti comme immédiat. Là aussi, l'ancien hospitalier que je suis connaît bien la difficulté de la compréhension du handicap dans les situations d'urgence et aux urgences. C'est pas facile pour les urgentistes, hein. Ils ont besoin de réagir vite. Et dans l'interface qu'il y a, dans l'échange qu'il y a avec la personne handicapée, il y a des grands dangers de quiproquos qui peuvent être dramatiques. Donc il faut vraiment que chacun des personnels des urgences soit adapté, soit formé à la prise en compte d'un échange quand une personne handicapée se présente. C'est essentiel. On a mis en place des consultations avancées dans les établissements et services médico-sociaux et ils ont été ouverts. On est prudent sur cette approche. Encore une fois, plus on est dans le régime général, plus on est dans le régime ordinaire, meilleur c'est. Hein ? Essayons surtout d'éviter des ghettos, même si c'est fonctionnel, hein, et efficace. C'est absolument pas la démarche, en tout cas essentielle, que nous devons avoir. On a demandé au secteur médico-social d'avoir une ouverture à la promotion de la santé au moment où nous allons réfléchir cette année avec peut-être vous, ou en tout cas certains d'entre vous, à la mise en place de notre projet régional de santé. Alors, sur certaines parties c'est à 10 ans, sur d'autres parties c'est à 5 ans. Un des éléments essentiels, et là c'est pour toute personne, si on veut gagner du gain santé, notre objectif, c'est de travailler sur la promotion et sur la prévention. Le curatif est efficace, mais il est parfois décisif, mais en termes populationnels, il ne nous fait plus gagner des grands points. Si on veut gagner des points de santé, il faut travailler sur la promotion, il faut travailler sur la prévention. Et c'est évidemment pour tout le monde, y compris les personnes handicapées, qu'elles soient chez elles, en milieu ordinaire, ou qu'elles soient dans des établissements. Un des deux derniers axes que je voulais souligner, c'est que nous voyons apparaître et on accompagne des demandes de professionnels de santé, notamment de médecins de ville, qui se soucient de la réponse qu'ils peuvent apporter à l'accueil et à la prise en charge de personnes handicapées. Il a été tout à l'heure rappelé qu'une trentaine de pourcents, il y a une dizaine d'années à peu près, de médecins refusaient de prendre en charge les personnes handicapées. Ça change, hein, on est au niveau national à 12%. Mais cette démarche-là spontanée de praticiens, notamment de praticiens de ville, est un élément très important. Dernier aspect, nous travaillons sur la mise en place de ce qu'on appelle le premier recours, c'est-à-dire la réponse qu'on doit apporter à des patients, nous tous, hein, comme patients, dans l'immédiateté de notre environnement, notamment pour les patients atteints de maladies chroniques. Nous mettons en place un système avec des outils numériques, mais ce qui est important, c'est l'organisation et l'association des professionnels de santé. Cet élément-là, qu'on utilise des outils numériques, parce qu'on peut travailler et former les professionnels de santé qui sont en train de travailler autour de ces organisations, hein, qui permettent aussi de mettre en place des plateformes territoriales d'appui pour les malades qu'on dit complexes, hein. Et dans certaines situations de handicap, le malade est complexe. On a là aussi des éléments qui nous permettent de progresser. Vous voyez, donc il se passe pas mal de choses. Pour autant, l'espace entre ce que nous devrions faire ensemble, bien sûr que le directeur général a une responsabilité, hein, mais je ne peux pas faire tout seul, hein, et puis les moyens sont de moins en moins importants. Par contre, la volonté, elle, est de plus en plus importante. Hein, et donc ça, nous devons le partager ensemble pour le réussir. Alors, quelles sont les étapes qui sont devant nous ? Une première étape, me semble-t-il, mais je ne voudrais pas injurier votre travail, c'est que nous, professionnels de santé, soyons le plus systématiquement possible, peut-être en passant au-delà des volontaires et des bénévoles engagés, formés à la prise en charge des personnes en situation de handicap, de manière plus large. Hein, parce que c'est une chose de faire tomber le mur de blocage, hein, moins en moins de refus, c'en est une autre d'être efficace dans l'accueil et la prise en charge des personnes handicapées. Le deuxième élément, c'est que il y a des situations où les structures d'accueil et de prise en charge, en proximité comme en soins spécialisés, doivent être adaptées et nous devons continuer à travailler à cette adaptation intelligente, c'est-à-dire non discriminante. Nous devons réaliser un plan d'action régional sur ce sujet. Nous avons besoin de vous, notamment, hein, pour poser les grands axes de ce plan d'action. Ça soulage de pouvoir dire ça pour un directeur qui est responsable de tout, vous savez bien. C'est un peu votre responsabilité aussi, on n'oublie pas la nôtre, hein, mais on compte sur vous. Merci beaucoup.